ce que j'ai à vous raconter est un peu plus difficile. Il s'agit cette fois d'une femme. Il faut d'abord savoir que j'ai toujours réussi et sans grand effort avec les femmes. Je ne dis pas réussir à les rendre heureuses, ni même à me rendre heureux par elles. Non, réussir, tout simplement. J'arrivais à mes fins à peu près quand je voulais. On me trouvait du charme, imaginez cela. Vous savez ce qu'est le charme ? Une manière de s'entendre répondre oui, sans avoir posé aucune question claire. Ainsi de moi à l'époque. Cela vous surprend, hein ? Allons, ne le niez pas. Avec la tête qui m'est venue, c'est bien naturel. Hélas, après un certain âge, tout homme est responsable de son visage. Le mien, mais qu'importe. Le fait est là, on me trouvait du charme et j'en profitais. Je n'y mettais cependant aucun calcul, j'étais de bonne foi ou presque. Mon rapport avec les femmes était naturel, aisé, facile, comme on dit. Il n'y entrait pas de ruse, ou seulement celle ostensible qu'elles considèrent comme un hommage. Je les aimais, selon l'expression consacrée, ce qui revient à dire que je n'en ai jamais aimé aucune. J'ai toujours trouvé la misogynie vulgaire et sotte, et presque toutes les femmes que j'ai connues, je les ai jugées meilleures que moi. Cependant, les plaçant si haut, je les ai utilisées plus souvent que servies. Comment s'y retrouver ? Bien entendu, le véritable amour est exceptionnel. Deux ou trois par siècle, à peu près. Le reste du temps, il y a la vanité ou l'ennui. Pour moi, en tout cas, je n'étais pas la religieuse portugaise. Je n'ai pas le cœur sec, il s'en faut, plein d'attendrissement au contraire, et l'alarme facile avec ça. Seulement, mes élans se tournent toujours vers moi. Mes attendrissements me concernent. Il est faux, après tout, que je n'ai jamais aimé. J'ai contracté dans ma vie au moins un grand amour dont j'ai toujours été l'objet. De ce point de vue, après les inévitables difficultés du très jeune âge, j'avais été vite fixé. La sensualité, et elle seule, régnait dans ma vie amoureuse. Je cherchais seulement des objets de plaisir et de conquête. J'y étais aidé d'ailleurs par ma complexion. La nature a été généreuse avec moi. Je n'en étais pas peu fier et j'en tirais beaucoup de satisfaction dont je ne saurais plus dire si elles étaient de plaisir ou de prestige. Bon, vous allez dire que je me vante encore. Je ne le nierai pas. J'en suis d'autant moins fier qu'en ceci, je me vante de ce qui est vrai. Dans tous les cas, ma sensualité, pour ne parler que d'elle, était si réelle que même pour une aventure de 10 minutes, j'aurais renié père et mère, quitte à le regretter amèrement. Que dis-je ? Surtout pour une aventure de 10 minutes, et plus encore si j'avais la certitude qu'elle serait sans lendemain. J'avais des principes, bien sûr, et par exemple, que la femme des amis était sacrée. Simplement, je cessais, en toute sincérité, quelques jours auparavant, d'avoir de l'amitié pour les maris. Peut-être ne devrais-je pas appeler ceci de la sensualité ? La sensualité n'est pas répugnante, elle. Soyons indulgents et parlons d'infirmité, d'une sorte d'incapacité congénitale à voir dans l'amour autre chose que ce qu'on y fait. Cette infirmité, après tout, était confortable. Conjuguée à ma faculté d'oubli, elle favorisait ma liberté. Du même coup, par un certain air d'éloignement et d'indépendance irréductible qu'elle me donnait, elle me fournissait l'occasion de nouveaux succès. À force de n'être pas romantique, je donnais un solide aliment au romanesque. Nos amis, en effet, ont ceci de commun avec Bonaparte qu'elles pensent toujours réussir là où tout le monde a échoué. Dans ce commerce, du reste, je satisfaisais encore autre chose que ma sensualité. Mon amour du jeu. J'aimais dans les femmes les partenaires d'un certain jeu qui avaient le goût au moins de l'innocence. Voyez-vous, je ne peux supporter de m'ennuyer. Et je n'apprécie dans la vie que les récréations. Toute société, même brillante, m'accable rapidement, tandis que je ne me suis jamais ennuyé avec les femmes qui me plaisaient. J'ai de la peine à l'avouer, j'aurais donné 10 entretiens avec Einstein pour un premier rendez-vous avec une jolie figurante. Il est vrai qu'au 10e rendez-vous, je soupirais après Einstein ou de fortes lectures. En somme, je ne me suis jamais soucié des grands problèmes que dans les intervalles de mes petits débordements. Et combien de fois, planté sur le trottoir, au cœur d'une discussion passionnée avec des amis, j'ai perdu le fil du raisonnement qu'on m'exposait parce qu'une ravageuse, au même moment, traversait la rue. Donc, je jouais le jeu. Je savais qu'elles aimaient qu'on n'allât pas trop vite au but. Il fallait d'abord de la conversation, de la tendresse, comme elles disent. Je n'étais pas en peine de discours, étant avocat, ni de regard, ayant été au régiment apprenti comédien. Je changeais souvent de rôle, mais il s'agissait toujours de la même pièce. Par exemple, le numéro de l'attirance incompréhensible, du « je ne sais quoi », du « il n'y a pas de raison, je ne souhaitais pas d'être attiré, j'étais pourtant lassé de l'amour », etc., était toujours efficace, bien qu'il soit un des plus vieux du répertoire. Ah, il y avait aussi celui du bonheur mystérieux, qu'aucune autre femme ne vous a jamais donné, qui est peut-être sans avenir, sûrement même, car on ne saurait trop se garantir, mais qui, justement, est irremplaçable. Surtout, j'avais perfectionné une petite tirade, toujours bien reçue, et que vous applaudirez, j'en suis sûr. L'essentiel de cette tirade tenait dans l'affirmation douloureuse et résignée que je n'étais rien. Ça n'était pas la peine qu'on s'attachât à moi. Ma vie était ailleurs. Elle ne passait pas par le bonheur de tous les jours, bonheur que peut-être j'eusse préféré à toute chose. Mais voilà, il était trop tard. Sur les raisons de ce retard décisif, je gardais le secret, sachant qu'il est meilleur de coucher avec le mystère. Dans un sens d'ailleurs, je croyais à ce que je disais. Je vivais mon rôle. Il n'était pas étonnant alors que mes partenaires, elles aussi, se missent à brûler les planches. Les plus sensibles de mes amis s'efforçaient de me comprendre et cet effort les menait à de mélancoliques abandons. Les autres, satisfaites de voir que je respectais la règle du jeu et que j'avais la délicatesse de parler avant d'agir, passaient sans attendre aux réalités. J'avais alors gagné, et deux fois, puisque outre le désir que j'avais d'elles, je satisfaisais l'amour que je me portais en vérifiant chaque fois mes beaux pouvoirs. Cela est si vrai que même s'il arrivait que certaines ne me fournissent qu'un plaisir médiocre, je tâchais cependant de renouer avec elles, de loin en loin, aidé sans doute par ce désir singulier que favorise l'absence, suivi d'une complicité soudain retrouvée, mais aussi pour vérifier que nos liens tenaient toujours, et qu'il n'appartenait qu'à moi de les resserrer. Parfois, j'allais même jusqu'à leur faire jurer de n'appartenir à aucun autre homme, pour apaiser une fois pour toutes mes inquiétudes sur ce point. Le cœur pourtant n'avait point de part à cette inquiétude, ni même l'imagination. Une certaine sorte de prétention était en effet si incarnée en moi que j'avais de la difficulté à imaginer, malgré l'évidence, qu'une femme qui avait été à moi pût jamais appartenir à un autre. Mais ce serment qu'elle me faisait me libérait en les liant. Du moment qu'elle n'appartiendrait à personne, je pouvais alors me décider à rompre, ce qui, autrement, m'était presque toujours impossible. La vérification en ce qui les concernait était faite une fois pour toutes, mon pouvoir assuré pour longtemps. Curieux, non? C'est ainsi pourtant, mon cher compatriote. Les uns crient « aime-moi », les autres « ne m'aiment pas », mais une certaine race, la pire et la plus malheureuse, « ne m'aime pas et sois-moi fidèle ». Seulement voilà, la vérification n'est jamais définitive. Il faut la recommencer avec chaque être. À force de recommencer, on contracte des habitudes. Bientôt, le discours vous vient sans y penser, le réflexe suit. On se trouve un jour dans la situation de prendre sans vraiment désirer. Croyez-moi, pour certains êtres, au moins, ne pas prendre ce qu'on ne désire pas est la chose la plus difficile du monde. C'est ce qui arriva un jour, et il n'est pas utile de vous dire qui elle était, sinon que, sans me troubler vraiment, elle m'avait attiré par son air passif et avide. Franchement, ce fut médiocre, comme il fallait s'y attendre. Mais je n'ai jamais eu de complexe, et j'oubliais bien vite la personne, que je ne revis plus. Je pensais qu'elle ne s'était aperçue de rien, et je n'imaginais même pas qu'elle pût avoir une opinion. D'ailleurs, son air passif la retranchait du monde à mes yeux. Quelques semaines après, pourtant, j'appris qu'elle avait confié à un tiers mes insuffisances. Sur le coup, j'eus le sentiment d'avoir été un peu trompé. Elle n'était pas si passive que je le croyais, le jugement ne lui manquait pas. Puis, je haussai les épaules et fis mine de rire.